une loterie. C'est comme ça que les économistes auteurs du livre Noise chez Odile Jacob décrivent notamment la justice et le système judiciaire. Imaginez des juges et une série de décisions rendues sur des affaires similaires. Eh bien, la différence de peine selon les juges sera de presque 4 ans pour une peine moyenne de 7 ans. L'issue dépend du juge, de son caractère, mais aussi plus étonnant du temps qu'il fait, de l'heure de la journée, et même de si l'équipe de foot que soutient le magistrat a gagné le week-end précédent. Étonnant, un peu effrayant aussi, ces données qui altèrent le jugement dans tous les domaines. Les auteurs de Noise appellent ça le bruit. Noise, c'est donc le titre de leur livre. Parmi les auteurs, il y a Olivier Sibony, économiste, professeur notamment à HEC Paris. Bonjour.
Bonjour.
Vos questions, chers auditeurs, si vous le jugez bon, 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. Olivier Sibony, quels sont les facteurs, les bruits qui peuvent faire varier et fausser un jugement ?
Le facteur principal, c'est qu'on est des êtres humains et que donc quand on doit faire face à une question de jugement, par définition, on peut ne pas être d'accord. Vous preniez l'exemple des juges parce qu'il est frappant, mais on n'a rien contre les juges. Ça serait pareil si on parlait des médecins, si on parlait des recruteurs, si on parlait des arbitres de football. On sait bien que dans toutes ces situations-là, il y a une vérité où on essaye de s'approcher de quelque chose qui ressemble à une vérité, et pourtant deux personnes différentes, et quelquefois même la même personne à deux moments différents, vont avoir des jugements différents. Ça, c'est le bruit, et c'est un facteur qu'on ne prend pas assez en compte, on a voulu s'y intéresser un peu plus.
Et donc ces facteurs, je disais, la météo peut-être,
La météo, c'est un peu extrême. Dans l'exemple des juges, effectivement, comme il y a des centaines de milliers de décisions, on peut mesurer l'impact de facteurs comme ça. On s'aperçoit par exemple que quand il fait plus chaud, les juges sont un peu plus sévères. Même quand leur tribunal est climatisé d'ailleurs, c'est intéressant. On s'aperçoit que quand leur équipe de foot a perdu le dimanche, ils sont un petit peu plus sévères le lundi. On s'aperçoit que quand ils ont pris plusieurs décisions favorables, par exemple plusieurs décisions d'acquittement, ils vont être plus sévères parce qu'ils ont l'impression qu'il faut redresser une espèce d'équilibre. Donc il y a des facteurs comme ça qu'on arrive à identifier. Mais, et c'est ça le problème du bruit, il y a aussi beaucoup de facteurs qu'on n'arrivera pas à identifier. En fait, il faut se résoudre à l'idée que beaucoup de décisions qu'on considère et qu'on est capable d'expliquer a posteriori comme étant argumentées, logiques, justes, optimales, sont en fait en bonne partie l'effet d'une sorte de loterie, comme vous le disiez.
Et il y a l'effet de la bonne humeur, alors qui altère aussi le jugement, visiblement. C'est ce que vous dites dans votre livre.
Oui, alors être de bonne humeur, c'est formidable pour beaucoup de choses, mais ça nous rend aussi un petit peu moins attentifs, et ça nous rend, par exemple, un petit peu plus susceptibles à céder aux stéréotypes. Si vous avez tendance à être victime de stéréotypes, à avoir certains biais, par exemple des biais sexistes, vous allez y être un peu plus sensible quand vous êtes de bonne humeur, parce que la mauvaise humeur vous rend un petit peu plus attentif. Donc il y a des tas de facteurs comme ça qui vont changer notre perception.
Et tous ces facteurs que vous définissez comme le bruit peuvent avoir des conséquences graves en fait, parce que vous disiez dans le domaine de la justice, dans le domaine de la médecine, on peut avoir un jugement altéré.
Oui, et en fait c'est ce sur quoi on a voulu attirer l'attention dans ce livre. Quand on parle des erreurs de jugement, on parle souvent des biais. Les biais, c'est des erreurs moyennes, des erreurs partagées, des erreurs qu'on est nombreux à commettre dans à peu près la même direction. Par exemple, pour prendre un exemple que tout le monde connaît, si vous devez faire des travaux chez vous, on sait que vous allez avoir un biais d'optimisme. Vous allez sous-estimer le temps que ça va prendre.
C'est assez
systématique. Il est rare qu'on se trompe dans l'autre sens. Bon, donc ça, c'est des erreurs prévisibles. Mais il y a aussi des tas d'erreurs qui sont imprévisibles. On peut les expliquer a posteriori par des facteurs comme ceux dont on a parlé, mais au fond, quand je rentre dans un tribunal et que je dois faire face à un juge, je ne sais pas si je vais tomber sur le juge plutôt sévère ou sur le juge plutôt compatissant. Je ne sais pas si je vais tomber sur le juge de bonne humeur ou de mauvaise humeur. En fait, il y a une grande partie de hasard là-dedans. Et ce hasard va entraîner autant d'erreurs et autant d'injustices que des choses qu'on est capable d'expliquer. Donc il faut aussi qu'on s'y attaque.
Et ça vaut aussi pour des hommes politiques qui doivent prendre des décisions face à une même pandémie et qui prennent des décisions diamétralement opposées.
Ça vaut absolument pour des hommes politiques ou pour des experts d'ailleurs, peu importe que ça soit des motivations politiques ou de l'expertise. Quand vous regardez par exemple la manière dont on réagit aux effets secondaires des vaccins, quand on s'aperçoit que certains vaccins ont certains effets secondaires, on s'aperçoit que dans des pays différents, des autorités de santé différentes qui regardent les mêmes données, qui ont les mêmes compétences scientifiques, qui ont certainement toutes de bonnes intentions et qui partagent toutes à peu près les mêmes objectifs, vont arriver à des conclusions différentes, voire opposées. Encore aujourd'hui, j'étais en Angleterre il y a quelques jours, les protocoles de vaccins qui sont considérés comme vous donneront un pass sanitaire en Angleterre ne sont pas les mêmes qu'en France. On peut avoir des jugements différents, y compris sur des questions de fait. Et c'est un problème, parce qu'on considère quand même tous que quelque part, il y a une bonne réponse.
Et le problème, c'est qu'on n'en a pas conscience.
Et on n'en a pas conscience, on a tendance à chercher l'erreur qu'on est capable d'expliquer, par exemple par une motivation. Quand je vous donne cet exemple, vous vous demandez tout de suite, Mais est-ce que les Anglais n'ont pas une raison particulière d'en vouloir aux autres vaccins? Est-ce qu'ils n'ont pas des motivations qui expliquent une différence de traitement? Ça arrive, bien sûr, mais souvent, il n'y a pas d'explication autre que simplement la variabilité des jugements.
Et pourtant, on a des dirigeants, notamment des dirigeants d'entreprises, qui continuent à défendre l'idée de prendre des décisions avec ses tripes, avec son intuition.
Alors, il n'y a pas que les dirigeants d'entreprises. Il y a bien sûr les dirigeants d'entreprises.
Les hommes politiques aussi.
Avec qui je travaille. Il y a bien sûr les hommes politiques, mais il y a aussi les juges, il y a aussi les médecins. Tout professionnel qui a de l'expérience et qui a de l'expertise est convaincu, et on le comprend, que son jugement et son expertise lui apportent une capacité à prendre des décisions en partie intuitives. Et pour une bonne part, il a raison. C'est-à-dire que la plupart du temps, les décisions de quelqu'un qui est un expert dans son domaine, les décisions d'un médecin, les décisions d'un policier dans une situation de crise vont être dans l'ensemble bonnes. Mais malheureusement, pas toujours.
Et le bruit, il est encore plus fort quand on émet, Olivier Cibony, des jugements en groupe.
Alors le bruit va être souvent amplifié par les groupes, mais c'est intéressant parce qu'on peut se servir des groupes pour, au contraire, le réduire. La manière dont, par défaut, les groupes vont amplifier le bruit, c'est que quand vous allez discuter en groupe, les opinions des premiers qui parlent ou de ceux qui ont le plus d'autorité vont acquérir un poids de plus en plus important.
Et ça se voit dans le milieu professionnel, par exemple.
Ça se voit dans n'importe quelle réunion de travail. Ça se voit aussi dans un groupe d'amis qui décident s'ils vont dîner à la pizzeria ou au restaurant chinois. Celui qui parle le premier va créer une espèce de direction à la discussion et il va se produire un effet de groupe, un effet de consensus, ou peut-être qu'à la fin, on est la majorité à se dire qu'on n'avait pas du tout envie d'aller à la pizzeria, mais on y allait quand même, vous voyez ce que je veux dire. En revanche, si on utilise la diversité des opinions qu'il y a dans un groupe, et qu'on fait en sorte que la diversité de ces opinions s'exprime, que les gens parlent séparément, formulent leurs opinions séparément les uns des autres, et aient une chance de les exprimer, et qu'ensuite on en fait la synthèse, on peut utiliser le groupe pour justement réduire le bruit. C'est une des bonnes méthodes pour essayer de prendre des décisions plus rationnelles et dans lesquelles il y a moins de bruit.
L'exemple extrême de l'influence du groupe, c'est les réseaux sociaux peut-être?
L'exemple absolument extrême de l'influence du groupe, c'est les caisses de résonance que créent les réseaux sociaux. Alors bien sûr, il y a des tas de groupes différents sur les réseaux sociaux, mais quand vous êtes dans un groupe, les algorithmes des réseaux sociaux, pour des tas de raisons, vont faire que vous allez être exposé de plus en plus à des opinions qui sont proches des vôtres, voire à des opinions qui sont proches des vôtres dans une version un petit peu plus extrême, parce que c'est ça qui va vous engager le plus. Et donc ça va avoir tendance à créer ces effets de caisse de résonance qu'on connaît tous et où on a des gens qui finissent par être totalement déconnectés, sinon de la réalité, en tout cas du fait qu'il existe des gens qui ne pensent pas comme eux.
Et ça encourage la radicalité ?
Et ça peut tout à fait encourager la polarisation des opinions. Ça, on le mesure depuis très longtemps, bien avant les réseaux sociaux. Quand vous exposez des groupes différents à des points de vue légèrement différents au départ, on va constater qu'ils se polarisent, c'est-à-dire qu'ils vont adopter chacun une version plus extrême de l'opinion médiane qu'ils avaient au début. Et ça, on le voit très bien, malheureusement, sur les réseaux sociaux.
Alors, comment éviter ces facteurs qui faussent le jugement? Vous disiez, on peut demander des jugements à des personnes, mais de façon séparée, afin qu'elles ne s'influencent pas. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour éviter de se tromper à ce point?
Il y a beaucoup de méthodes, et on essaye d'en développer un certain nombre. En dehors de la pluralité des jugements, il y en a une qu'on peut tous utiliser quand on a une décision complexe à prendre, c'est d'y introduire un petit peu de discipline, un peu de structure. C'est-à-dire de se dire, au fond, si je dois par exemple décider d'acheter un appartement, ou si je dois décider de choisir un poste parmi ceux qu'on me propose, quels sont mes critères ? Et de lister simplement les dimensions de la décision, les axes sur lesquels on va évaluer la décision, est déjà une première bonne étape. Ensuite, une autre bonne étape, c'est d'essayer d'évaluer séparément chacun de ces critères pour ne pas en laisser un qui serait particulièrement frappant influencer tous les autres. Par exemple, je rentre dans un appartement, je trouve qu'il a une vue superbe, et tout d'un coup, j'ai un coup de cœur et c'est formidable, mais j'oublie qu'en fait, il est beaucoup plus petit et beaucoup plus cher que ce que je voulais.
On fait une liste de plus et de moins, en quelque sorte.
Voilà, en fait, on fait une liste de plus, on structure la décision, on essaye d'avoir, si possible, quelque chose d'un peu plus précis que des plus et des moins, ou une forme de notation, quelque chose dans ce genre-là.
S'appuyer sur les statistiques aussi, c'est ce que vous dites dans le livre ?
S'appuyer sur les statistiques quand on peut, quand on va avoir, par exemple, des données sur lesquelles on peut s'appuyer, voire des règles de décision qu'on peut adopter, qui peuvent être des règles formalisées à l'avance, on aura toujours moins de bruit quand on respecte une règle, quand on applique un principe qui est défini à l'avance, que quand on décide au cas par cas. Alors bien sûr, c'est toujours très tentant de décider au cas par cas. On s'imagine toujours que sur chaque cas, on a une compréhension plus fine, une intuition plus adéquate de la situation. Mais en réalité, on va généralement commettre moins d'erreurs quand on applique une règle bien définie, pas n'importe quelle règle stupide bien sûr, mais une règle bien définie à l'avance.
Et Olivier Cibony, ça dérive vers ce que vous proposez dans le livre, c'est-à-dire résoudre ces problèmes de jugement grâce à des algorithmes?
Alors, ça dérive vers ça, mais c'est pas ce qu'on propose justement, et c'est important de le dire.
C'est une solution que vous évoquez en tout cas.
C'est une solution dont on parle pour en montrer les limites. Bien sûr, la grande tentation quand on dit qu'il y a du bruit dans le jugement humain, c'est de dire bah, c'est très simple, il suffit de s'en débarrasser du jugement humain et de le remplacer par des algorithmes.
Exemple, un radiologue qui examine une radio...
Exemple, un radiologue qui examine une radio, est-ce qu'on ne peut pas le remplacer par un algorithme qui va vous dire si dans telle image il y a une tumeur ou il n'y en a pas? Il y a des tas d'applications pour lesquelles ça marche et ça ne pose pas de problème, soit dit en passant. Quand aujourd'hui vous allez demander un crédit à votre banque, vous n'avez pas un entretien de personnalité avec le chargé de compte qui décide si Marion Lourd est une personne à qui on peut faire confiance. Vous voyez, il va regarder un certain nombre de paramètres qui ont été normalisés à l'avance et vous trouvez ça très bien. Ça permet d'éviter toutes sortes de biais, toutes sortes d'arbitraires, toutes sortes d'injustices. Donc, il y a des tas de domaines dans lesquels les algorithmes ne posent pas de problème. Ce sur quoi on insiste dans Noise, c'est sur le fait que il y a néanmoins énormément de domaines, et les plus importants, dans lesquels, pour des tas de raisons, dont beaucoup sont bonnes, on ne veut pas avoir affaire à des algorithmes. On ne veut pas avoir affaire à des algorithmes parce qu'on veut avoir affaire à des humains, parce qu'on veut que les humains gardent leurs responsabilités, parce qu'il y a une valeur à l'interaction humaine qui va au-delà de simplement la qualité de la décision. Donc, pour plein de bonnes raisons, on préfère avoir affaire à des humains, et donc c'est important que ces humains essayent eux aussi d'améliorer un petit peu leurs décisions et d'y réduire un petit peu le bruit. Parce qu'au fond, ce qui fait que les algorithmes sont souvent meilleurs que nous, c'est qu'ils sont constants, ils sont réguliers, ils n'ont pas justement de bruit. Si on arrive à s'en inspirer un petit peu, on sera nous aussi meilleurs sans pour autant abandonner le jugement humain.
À l'approche de la présidentielle, comment on affûte son jugement pour mieux voter et que conseiller aux politiques qui doivent ensuite rendre des jugements, des décisions?
Alors, c'est deux questions différentes. Les politiques, j'ai pas de conseils à leur donner parce que les jugements qu'ils formulent relèvent de leurs valeurs et c'est tout à fait normal que des politiques différents aient des valeurs et des opinions et des points de vue différents. Il n'y a pas de vérité unique vers laquelle tout le monde devrait converger. En revanche, quand on vote, une chose qu'on devrait, je pense, tous faire, c'est appliquer ce genre de structuration du jugement dont on a parlé et ne pas avoir de réactions trop émotionnelles, trop rapides, trop intuitives. On sait par exemple, on a des tas d'études là-dessus, que le physique d'un candidat ou d'une candidate pèse beaucoup dans la décision qu'on va avoir de voter pour lui ou pour elle. Est-ce que c'est une bonne chose? Personnellement, je pense pas. Je pense qu'en tant qu'électeur, j'ai envie de regarder des choses un petit peu plus structurées que simplement est-ce que le candidat a une tête qui me revient.
Olivier Cibony, est-ce qu'on peut exclure que dans cet ouvrage Noise, il y ait aussi des erreurs de jugement, et notamment parce que c'est de l'économie comportementale et pas de l'économie basée uniquement sur des chiffres, des formules et des statistiques?
Bien sûr, il y a plein d'erreurs de jugement dans notre livre. Il y a même des erreurs de typographie. Vous savez, on en fait aussi, et qu'on a oublié de corriger. On fait tous des erreurs. C'est pas un drame de faire des erreurs. Quand on fait des erreurs, on en tire les leçons, on apprend des choses, on en ressort souvent meilleur. On a néanmoins essayé d'écrire un livre pour les gens qui vont au bureau le matin en se disant qu'ils vont essayer de faire moins d'erreurs, plutôt que pour ceux qui se disent qu'ils vont essayer d'en faire plus, qui à ma connaissance sont quand même assez rares.
Mais est-ce que ça c'est encore de l'économie?
Vous parlez d'économie, mais en fait, Daniel Kahneman, qui est le premier auteur de ce livre, est un psychologue. Cass Sunstein, qui est le troisième, est un juriste. Et moi, je suis prof de management, et donc je touche un peu à l'économie. C'est pas un livre d'économie, c'est plus un livre de psychologique d'économie. Et c'est pour ça qu'il touche à beaucoup de domaines. Vous en avez parlé, comme la justice, comme
la médecine et la police scientifique.
Comme la police scientifique et comme beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec l'économie, et c'est tant mieux.
Olivier Cibony, auteur de Noise, pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter aux éditions Odile Jacob, avec Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, et Cass R. Sunstein. Merci d'être venu sur France Inter.
Merci à vous.